grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce week-end, vous irez peut-être au resto, entre amis, en famille, en amoureux. Mais qu'est-ce qui nous pousse à quitter le cocon de son chez-soi pour aller dans un établissement où l'on sert des repas moyennant paiement, pour reprendre la définition du Robert ? À partir de quand les restaurants sont-ils entrés dans notre quotidien ? Pourquoi sont-ils devenus des hauts lieux de la sociabilité ? Comment expliquer que notre pays soit devenu l'un des épicentres de la restauration, envié partout dans le monde ? Pensez à Paul Bocuse, Alain Ducasse, Joël Robuchon ou Anne-Sophie Pic. Comment expliquer cette passion française de la sortie dans une brasserie, dans un étoilé, une gargote, un coréen ou encore un italien ? Pourquoi aller au resto fait du bien même quand l'assiette n'est pas inoubliable ? Avec nous autour de la table, de grand bien vous fasse, l'historien Antoine Debecq, le chef Grégory Cohen, qui a la même voix, paraît-il, que Patrick Bruel, et la podcasteuse Zazie Tavitan. Racontez-nous votre joie d'aller au resto, vos plus beaux repas, les plus conviviaux, les plus goûteux, dans une improbable gargote ou à la table d'un grand chef. Dites-nous également si vous résistez à la fâcheuse envie de prendre vos plats en photo pour les partager sur les réseaux sociaux. Dites-nous enfin si, comme Burt Lancaster, vous jugez un restaurant sur son pain et son café. 01 45 20 47 000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Dites-nous également si vous détestez aller au resto. Si elle pouvait, si elle le pouvait, elle passerait sa vie au restaurant, Guillemette Odissino, et son esprit d'escalier qui sent bon la blanquette de veau. Vous auriez pu être critique gastronomique.
C'est très gentil, je prends ça pour un grand compliment.
C'est vrai.
Heureusement, j'ai plus la bouche pleine parce que j'ai déjà mangé 3 cookies. moi, je vais vous dire que dans les films aussi, les restos, ça compte, ça donne une sacrée atmosphère.
Lui aussi aime les restaurants et ça se voit. Éric Libiot, rédacteur en chef culture à l'Express. Quoi de neuf dans votre esprit d'escalier ?
Vous aimez les coiffeurs, vous. Écoutez, c'est le retour du 8 mars, évidemment.
Journée de la femme oblige. Des droits de la femme, pardon, faut être très précis. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Écoutez, vous me donnerez un radis.
Comment vous dites, monsieur ?
Vous me donnerez un radis.
Un radis. Bien, monsieur, et ensuite ?
Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt.
Un yaourt.
Un yaourt. Et puis alors vite, parce que je suis très pressé.
Ce sera rapide, monsieur.
Non, vous me laissez, monsieur. Ah, monsieur ? Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez ? Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux ?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux ?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux ?
Ah. Si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec ?
Non, je préférais un demi-doux.
Et est-ce vraiment une joie d'aller au restaurant avec Louis de Funès dans le grand restaurant ? Avec nous ce matin, Antoine Debecq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, écrivain, professeur à l'École Normale Supérieure et vous venez de publier un ouvrage absolument passionnant, La France gastronome, comment le restaurant est entré dans notre histoire. C'est publié chez Payot. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour.
C'est vous qui nous avez amené les cookies. Vous êtes chef cuisinier, restaurateur. Vous avez pris les commandes du 99 Haussmann à Paris. Bonjour Zazie Tavitan.
Bonjour.
Vous animez l'excellent podcast Casserole et les restaurants sont un peu votre deuxième maison. On commence avec vous, tiens, Grégory Cohen, parce que vous avez grandi dans un restaurant, vous êtes devenu restaurateur. Qu'est-ce que vous aimez dans l'ambiance du restaurant et quels sont les souvenirs marquants dans le resto de vos parents ?
Ben, en fait, c'est vraiment les souvenirs des clients qui m'ont donné envie de partager la cuisine, de partager ce qu'on faisait avec l'ensemble des clients qui étaient là. Les clients étaient à peu près tous égaux devant l'assiette. C'était un restaurant qui se trouvait rue de Verneuil et il y avait Lino Ventura, il y avait Belmondo, c'était la cantine de Gainsbourg, mais c'était pas loin de l'Assemblée nationale. Donc on avait aussi Mitterrand qui passait et d'autres personnes, je parle des années 80 pour resituer à peu près par rapport à certains auditeurs. Et en fait, on se retrouvait avec Gainsbourg qui regardait Raymond Barre et qui lui disait vous savez que Cohen, là, il a servi la soupe à Mitterrand, là, il n'y a pas longtemps. Et Raymond Barre qui lui répondait, vous savez, en matière culinaire, je suis d'un grand œcuménisme. Et c'était canon, quoi, parce que du coup, il y avait cette espèce de mélange. Et...
Une comédie humaine, qu'est-ce que vous aimez, tiens d'ailleurs, Antoine Debecq, dans la comédie humaine qu'est le restaurant ?
C'est vrai que c'est un lieu où où on se rassemble. Alors, ce qui est beau dans un restaurant, c'est quand c'est très mêlé, quoi. C'est quand, ce qui est quand même pas tout à fait l'histoire des restaurants à Paris, qui sont, il y a des restaurants qui mêlent comme les brasseries, mais c'est quand même plutôt, on mange plutôt entre soi. C'est quand même ça qui est l'histoire de, du restaurant parisien. Mais bon, voilà, ce qui peut être très beau, c'est comme dans une soirée réussie, c'est quand tout d'un coup, voilà, il y a des rencontres qui se font et qui se font à la fois parce que on est réunis autour d'une table et puis parce que on peut parler de ce qu'on mange. Et c'est ça qui est un peu la grande révolution qui va lancer le restaurant. C'est à partir du moment où on commence non seulement à manger, à bien manger, mais aussi à parler, à partager par la parole ce qu'on mange.
Zazie Tavitan, qu'est-ce que vous aimez au restaurant ? C'est votre métier, mais au-delà des raisons professionnelles qui vous poussent à aller au restaurant ?
Moi, je crois que j'ai toujours aimé aller au restaurant. J'ai le souvenir déjà enfant que c'était un moment de fête. Et j'ai fait beaucoup de critiques de restaurant, donc j'ai été amenée à y aller 2-3 fois par semaine. Et je me disais toujours, je vais me lasser un jour d'aller au restaurant en y allant trop. Et en fait, je me lasse jamais.
Pourquoi ?
Je crois que c'est... Moi, j'y vais aussi beaucoup pour la découverte, cuisiner des choses que j'aurais pas mangé chez moi. À Paris, c'est quand même assez incroyable le nombre de restaurants, de cuisines différentes, de cuisines du monde qu'on peut goûter. Et cette ouverture sur le monde qu'apporte le restaurant, c'est quand même quelque chose qui m'étonne, moi, toujours, dont je me lasserai jamais, je crois.
Guillaume Todisino.
Oui, je suis d'accord. Et au-delà de la diversité, c'est-à-dire de manger des plats qu'on ne fait pas chez soi, au restaurant, on se sent obligé et... dans la foulée, extrêmement content de manger des trucs dont on croit qu'on n'aime pas ça. Parce que à la maison, moi j'ai une maman qui m'a initiée au restaurant. On faisait vraiment des balades gastronomiques. Je suis allée chez le papa de Marie-Sophie Pic à Valence et
Anne-Sophie,
pardon. Et sur la carte, il y a des choses. Vous dites ah non mais non, enfin c'est pas possible. Je déteste les rognons potentiellement. Mais si, tu devrais goûter. Et c'est dingue comme au resto, on aime ça alors qu'à la maison, on n'aime pas.
Grégory Cohen.
Pardon. En fait, moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'effectivement, on va au resto pour la découverte culinaire. Ça, c'est un fait. Mais étrangement, on va aussi au resto pour être bien, pour la convivialité et pour l'accueil du restaurant. C'est-à-dire que paradoxalement, on a envie de se retrouver un peu comme à la maison, accueilli comme à la maison. Les clients, en fait, qui viennent ou qui viennent une seconde fois, adorent être reconnus. Adorent qu'on sache qui ils sont. Ils adorent les petites attentions comme ça. Moi, je me balade dans le restaurant à chaque service. Je vais voir tous les clients à toutes les tables pour leur dire bonjour et je joue le rôle de trait d'union entre une table et une autre table parce qu'il y a toujours des oreilles qui traînent en écoutant telle ou telle anecdote. Et du coup, ça crée des liens entre la table de gauche de 2 personnes et celle de droite de 4 personnes.
Il ressemble beaucoup à Antoine Beauvillier.
Absolument.
Racontez qui est Antoine Beauvillier. Alors, qui est l'un des premiers grands restaurateurs.
Voilà, Antoine Beauvillier, c'était le cuisinier du comte de Provence. Donc vraiment un cuisinier de prince dans la tradition aristocratique et qui, à la fin du XVIIIe siècle, on pense que c'est en 1787, il ouvre son restaurant qui s'appelle la Grande Taverne Anglaise près du Palais Royal. Et la spécialité de Beauvillier, c'est à la fois un grand cuisinier, donc il a plusieurs spécialités très connues à l'époque, mais c'est surtout l'accueil.
C'est un ambianceur.
Un ambianceur, voilà. Je ne peux pas employer un autre mot que ça pour le décrire. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a une mémoire des noms et une mémoire visuelle incroyable. Et dès qu'on est venu une fois chez Beauvillier, il vous reconnaît, il sait ce que vous mangez, ce que vous aimez. Et voilà, et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a un art de parler de sa cuisine qui fait que on vient chez Beauvillier autant pour manger que pour écouter Beauvillier parler de la cuisine.
Éric Libiot.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lire une carte de restaurant. Je trouve qu'il y a parfois, c'est parfois très radical, très sobre, c'est parfois très poétique, c'est parfois un peu
pompeux,
étrange, un peu pompeux, un peu sibyllin, un peu bizarre, un peu ça. Je trouve qu'il y a. Et puis, c'est peut-être la palissade de dire ça, mais juste de se retrouver entre gens en face, les uns en face de l'autre, et juste de discuter, de parler. C'est vrai que souvent dans nos vies, on peut dîner même chez soi, un peu devant la télé, à droite à gauche, les enfants ici, les parents là, etc. Là, il y a une espèce d'obligation l'espace même du restaurant à se retrouver ensemble et du coup à rediscuter, à retisser des liens et ça je trouve ça assez touchant.
Et justement c'est aussi un endroit où moi j'adore aller avec des gens que je connais pas très bien au restaurant pour un peu comprendre qui sont ces personnes, faire connaissance face à un plat, c'est aussi bien comprendre l'autre, comment il va manger, s'il va rechigner ou pas, enfin ça peut créer ou casser une amitié dès le premier
et des amours aussi,
le premier
rendez-vous amoureux
ou le premier ou le dernier. Souvent, on va rompre au resto. Enfin, ou on demande en mariage au resto, ou on rompt au resto. Parce que du coup, effectivement, Eric Libio a raison, on peut pas sortir de la pièce.
Ah oui, j'ai d'ailleurs un souvenir formidable, parce que la première fois où j'ai invité celle qui est devenue ma femme au restaurant, je l'ai invitée et ma carte bleue ne marchait plus, c'est elle qui m'a offert le restaurant.
C'est quand même un début,
bien sûr, bien évidemment. Bien sûr, Eric Libio, on va vous croire.
Alors, à quoi reconnaît-on un bon restaurant, se demandait Frédéric Becbédé. Les verres à vin, ils sont plus grands que les verres à eau. Plus sérieusement, à quoi on reconnaît un bon resto, Zazie Tavitan?
Bah, je crois que c'est un resto où effectivement, on se sent bien. On parlait du service et je pense que c'est très important parce qu'on peut avoir devant soi la meilleure nourriture. Si on se sent mal accueilli, mal servi, on sent qu'on est pressé ou qu'on n'a pas envie, qu'on n'est pas bien reçu, tout de suite, ça va gâcher la moitié du plaisir. Après, juste simplement le plaisir qu'on a à manger et puis l'envie d'y retourner, c'est un bon indicateur. Si on en sort et qu'on se dit, ah, j'ai envie d'y retourner la semaine prochaine, on peut dire que c'est un bon restaurant.
Grégory Cohen.
Oui, je suis complètement d'accord. En fait, le restaurant, c'est un lieu d'accueil avant tout. Et à partir du moment où c'est un lieu d'accueil, si on n'est pas bien accueilli, même si ce qu'on mange est bon, ben on n'a pas forcément envie de revenir dans ce restaurant-là. Donc le service, on parle très souvent des chefs, très souvent des chefs ou des pâtissiers, parce que c'est effectivement le nerf de la guerre, mais réellement le travail qui va se faire, ça va être comment est-ce qu'on va accueillir les gens, comment on va les mettre en situation de vivre une expérience qui va être meilleure que n'importe où ailleurs.
Antoine Debecq, pourquoi le restaurant est-il un laboratoire des mutations de la société ?
C'est vrai que c'est un espace de social, c'est un espace où on se rencontre, c'est un espace où se révèlent toutes les mutations de la société. Alors pour prendre l'exemple de la fin du XVIIIe siècle, il est très clair que le restaurant accompagne, alors ça peut paraître étrange, paradoxal, hein, la révolution. La révolution, elle devrait ne pas aimer le restaurant et les grands chefs, puisque les chefs jusqu'à la révolution sont essentiellement attachés à des princes, hein, ou à des grands aristocrates qui peuvent ça fait partie du luxe de l'aristocratie d'avoir ces grands chefs. Et mais en même temps, c'est la révolution qui va précipiter la naissance du restaurant, puisque envoyant à l'étranger la plupart des grands aristocrates du royaume qui partent en émigration très vite, hein, dès juillet 1789, les chefs se trouvent sans employeur et vont s'engouffrer dans ce qui est une mode de l'époque, c'est-à-dire la création d'un restaurant. Et donc, c'est comme ça que par une sorte de à la fois d'événement et de mutation sociale, le restaurant va devenir le symbole du passage, disons, du bien manger aristocrate au bien manger bourgeois, qui va être l'apogée du restaurant au début du 19e siècle. C'est vraiment le symbole de la société bourgeoise.
Et on évoquera tout à l'heure le tout premier restaurateur. Il s'appelait Mathurin Rose de Chantoiseau. Allez, n'hésitez pas à nous raconter votre plus beau souvenir au restaurant, pas seulement dans l'assiette. 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Nicolas Beauve. Et c'est réalisé par David Le Prince.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Alors là, Guillemette Odissino est sur un nuage entre les cookies de Grégory Cohen et Frank Sinatra. Tout va bien, Guillemette.
Oui, on est en pleine sensualité.
Je veux une entrecôte frite.
Et moi, je veux un bœuf carotte frite.
Et moi, entrée, je veux un hareng avec des frites.
Grand bien vous fasse.
Je vous propose une mousse de courge butternut au domino en gelée de châtaigne avec des petites ravioles de tomates posées sur une feuille de chêne.
Sur France Inter.
C'est sérieux avec des frites.
10h22, on s'intéresse ce matin à la joie d'aller au restaurant. L'occasion également de se demander comment le resto est entré dans notre histoire et dans notre quotidien. Racontez-nous votre plaisir aller au restaurant. 01 45 24 7000.
Vous faites goûter à monsieur, je vous prie.
Déjà, avec les yeux, j'ai goûté l'étiquette. Hein. Merci.
Je cherche mes mots, là.
Non, je reste au champagne.
Évidemment, l'ambiance, c'est pas une guinguette.
Elle est dans l'assiette, l'ambiance. Le noun muscade.
T'as analysé les coquilles ?
Mais non, j'ai pas analysé. Je réfléchis pas à chaque bouchée, quand même. On est là pour être heureux.
Non ? Pour apprécier.
Ah non, ça, c'est un péché. C'est pour ça que c'est bon. Faites plaisir à messieurs.
Et tu sais à combien ils le servent, le champagne, ici ?
5 degrés et demi.
Tu le savais ?
J'y viens tout le temps.
Maxime, c'est magnifique.
Maxime.
Messieurs, je n'aurai pas l'émotion facile, mais je vous remercie d'être mes amis.
Extrait de Garçon de Claude Sauté, Guillemette Odissino.
Ah mais oui, alors on entend, c'est l'un des grands serveurs qui part à la retraite, qui invite toute l'équipe.
La brigade.
La brigade dans un très grand restaurant, mieux étoilé que la brasserie dans laquelle ils bossent tous ensemble. Et on entend le chef Bernard Fresson qui dit « Bah non, je réfléchis quand même pas à toutes les bouchées, mais... » C'est absolument magnifique. Vous m'ouvrez une porte incroyable. Claude Sauté, c'est le cinéaste des restaurants, des brasseries, des garçons qui courent partout. Et on aime aussi, alors, des brasseries en fumée aussi.
C'est fini, ça.
Nostalgie ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment le cinéaste. Et Yves Montand qui dit à Romy Schneider, tu aimes ce petit resto? Je peux te l'acheter, là, tout, avec la petite pharmacie et le fleuriste aussi. Donc, il y a vraiment ça dans tous les films de Sauté.
Antoine Debecq, je rappelle que vous publiez La France Gastronome. L'une des particularités quand on va au resto en France, c'est qu'on parle beaucoup de ce qu'on mange, de ce que nous avons mangé et de ce que nous allons manger. Ça, c'est très français.
Hein. Oui, c'est très français et ça frappe beaucoup les étrangers. Vous savez que c'est quelque chose qui reste... les Français sont ceux qui passent le plus de temps à table. Depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est... presque parfois 3 fois plus de temps à table que les Américains, par exemple. Et pourquoi est-ce que les Français passent du temps à table? Parce que c'est un lieu de convivialité où on peut parler de tout, mais c'est aussi parce qu'on aime parler de ce qu'on mange. Ça c'est vraiment quelque chose qui accompagne la naissance du restaurant, puisque la fin du 18e, début du 19e siècle, voit la naissance de la gastronomie. Voilà, avec Grimaud de la Reynière, avec Brillat Savarin. On est dans un moment où s'invente véritablement une langue qui permet de, dans la nuance, dans la précision,
la délicatesse, la
sensualité aussi, de décrire à la fois les saveurs qui viennent à chaque personne qui mange et en même temps aussi de, parfois de le critiquer très sévèrement. C'est Grimaud de la Reynière qui invente ce qu'il appelle le jury dégustateur, c'est-à-dire que les grands chefs viennent présenter à une assemblée de spécialistes, d'experts, leurs plats. Et Grimaud publie dans l'almanach gourmand les résultats du vote du jury. C'est un peu le Michelin de l'époque, hein, si vous voulez. Donc voilà, il y a toute une culture de la parole et de l'écriture sur ce qu'on mange qui est très original parce que c'est quelque chose qui, vous allez dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, Parler de ce qu'on mange est très mal vu. Hein, dans les livres de civilité, dans les livres de bienséance, on ne parle pas de ce que l'on mange. C'est vraiment quelque chose qui est une sorte de constante. Donc il y a vraiment une sorte de révolution, une mutation de civilisation à la fin du XVIIIe siècle.
Zazie Taviton du podcast Casserole, la discussion culinaire, c'est presque aussi important que ce qu'on mange?
Oui, je pense que c'est aussi être déjà devant la carte et réfléchir, parler de ce qu'on va choisir, etc. Ça fait partie du début du plaisir. Et puis après, moi j'ai toujours adoré, avant d'être critique, lire des critiques, notamment François Simon quand il écrivait...
Très grand critique.
Voilà, un très grand critique. Et lui, en une critique, il arrive à aussi décrire l'ambiance d'un restaurant. Enfin, on comprend exactement où on est et même si on comprend pas tout à fait ce qu'on va manger, on sait plus ou moins si ça va nous plaire... ou non, enfin, il y a quand même cette joie du verbe aussi quand on écrit sur les restaurants qui, moi, me donne déjà faim.
François Simon, plus qu'un critique, c'est avant tout un écrivain, Grégory Cohen, sur le plaisir de parler de ce qu'on mange. Vous en avez conscience, évidemment, quand vous êtes chef.
Alors c'est la notion
en cuisine,
de plaisir.
Vous imaginez ce qu'on dit de vos plats, de la discussion que ça crée.
Alors en fait,
je rappelle que vous êtes le chef du 99 Haussmann.
Merci. En fait, ça démarre avec la carte. C'est un peu un casse-tête en fait pour un chef parce qu'on est en train de se dire est-ce que je révèle tout? Est-ce que je laisse un peu la place à l'imagination? Et est-ce que je suis pas trop pompeux dans une appellation qui va strictement rien dire? Donc ça démarre avec la carte. Et puis, il faut savoir qu'en France, on est quand même aussi un pays qui se trouve au milieu de plein d'aspirations. Il y a la Méditerranée,
d'influence.
Il y a le Nord, d'influence, de partout. Ce qui fait qu'on arrive tous avec nos singularités. Moi, je viens d'une famille méditerranéenne. C'est incroyable, mais on ne parle de bouffe, mais tout le temps. C'est incroyable. Et donc, au restaurant, a fortiori, ce qu'on mange, ce qu'on a mangé, ce qu'on va manger, et puis ce qu'il y a à côté, ce qu'ils ont mangé eux aussi.
Bonjour Martine, bienvenue, vous appelez de Grigny.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors vous faites partie d'un groupe qui se réunit une fois par mois, c'est ça, autour d'un dîner,
oui,
au resto?
Oui, en fait, on se réunit une fois par mois. Alors, bien sûr, on parle de ce qu'on a déjà mangé ici, à cet endroit ou ailleurs. Et puis, mais on parle surtout, notre groupe s'appelle Lecture Vagabonde. Mm-hmm. Et l'objet du groupe, alors c'est un groupe informel, hein, c'est pas une association, c'est par cooptation, on va dire, par mail, on se contacte. Et puis, on se réunit une fois par mois. J'habite une petite commune du sud de Lyon qui s'appelle Grigny. Pas confondre avec Grigny dans l'Essonne, c'est Grigny dans le département du Rhône. Et on a quelques restos autour de nous, même y compris un restaurant d'application d'un établissement pour des jeunes en difficulté qui s'appelle la Cristallerie, où on va se réunir par exemple mardi prochain et on partage nos lectures, c'est-à-dire que on parle des livres qu'on a lus, on les apporte, on s'en lit des extraits, on échange nos livres, on ramène les livres qu'on a lus ensemble, enfin qu'on a lus et puis voilà, et on partage nos lectures et bien sûr entre deux plats on lit et puis sinon on mange, on partage aussi le plaisir de manger, bien évidemment, parce que sinon on ne se réunirait pas dans un restaurant. Et on essaye, en général, les restaurateurs sont assez conciliants, ils nous mettent dans un petit coin un peu plus tranquille, ils savent pourquoi on est là, ils ont l'habitude, voilà.
Martine, quoi de plus extraordinaire que qu'allier les nourritures terrestres et les nourritures spirituelles?
Voilà,
merci beaucoup Martine pour votre témoignage. Un inconnu par courriel, non c'est pas un inconnu, il s'appelle Nicolas, nous dit un jour, on me dit que nous n'avons plus de table, acceptez-vous de déjeuner avec un inconnu? J'ai dit oui. Ce repas n'était pas inoubliable d'un point de vue gastronomique, mais du point de vue humain, j'ai adoré. Plutôt que déjeuner seul, j'ai déjeuné avec un parfait inconnu et ça a été absolument surprenant, agréable. Est-ce qu'autour de la table, vous imaginez aller au restaurant, au-delà peut-être des raisons professionnelles, est-ce que vous imaginez y aller seul? Zazie Taviton, aller seule au restaurant?
Moi, je pense que ça, j'aurais pas imaginé il y a quelques années y aller seule, et j'ai dû y aller pour des raisons professionnelles. Et
au-delà des raisons professionnelles.
Oui, en fait, j'ai un vrai plaisir maintenant à aller au restaurant seule, à être dans un quartier, à me dire bon, j'ai faim, je m'arrête là, et à vraiment profiter du moment seul, sans être sur son portable, mais juste observer. En plus, il y a plein de conversations intéressantes généralement à observer, à écouter autour de soi. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est un plaisir très différent du plaisir d'y aller à plusieurs, mais c'est un vrai plaisir d'aller au restaurant seul.
Antoine Debecq.
Moi, c'est mon grand plaisir.
C'est vrai. Pourquoi?
Parce que j'aime bien être seul d'abord, et puis parce que effectivement à la fois je suis plus concentré sur ce que je mange, et puis d'autre part je peux écouter. Voilà, la solitude est toujours très peuplée de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. On a un degré d'attention qui est accru quand on est seul. Et voilà. Alors et puis il faut pas oublier que c'est, alors là c'est de l'histoire qui parle, au restaurant, le restaurant est né de cette individualisation du manger, hein. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le restaurant naît à la fin du XVIIIe siècle? Parce que justement s'invente quelque chose qui est la table individuelle.
Et si on s'intéressait justement au premier restaurateur en France, un dénommé Mathurin Rose de Chantoiseau, en 1765, décide de servir une volaille au gros sel accompagnée d'œufs frais sur une petite table de marbre dans une boulangerie parisienne. Et sur l'enseigne de sa boulangerie, on pouvait lire « Venez à moi, dont l'estomac souffre, je vous restaurerai ».
Voilà, c'est, alors Chantoiseau est un personnage étrange parce que ce n'est pas un cuisinier, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un économiste en fait, c'est un physiocrate, et c'est une idée d'économiste. C'est quoi l'idée de Chantoiseau? Il part d'une sorte de constat que à Paris on ne peut pas manger justement seul. Alors, on mange, pour bien manger, il faut être invité chez un grand aristocrate. Sinon, on peut aller, après, il y a beaucoup de corps de métier, des corporations qui sont dédiées à ce qu'on mange.
Les taverniers, les aubergistes.
Les aubergistes. Mais à la taverne, à l'auberge, ce sont des tables collectives. On ne choisit pas ce qu'on mange non plus. Et puis surtout, on ne choisit pas l'horaire. En général, c'est des horaires fixes. Et qu'est-ce que c'est que le restaurant? C'est l'individualisation de la table. C'est la table avec le menu. Alors, chez le premier, il y avait 3 plats, mais ensuite, chez Beauvilliers, il y en a plusieurs centaines. Hein. Et puis, c'est un rite d'horaire qui se met en place, qui permet aux gens d'aller manger, non pas à l'heure qu'ils veulent, évidemment, mais à des heures quand même qui sont relativement souples. Mmh. Et donc, c'est ça qui est véritablement l'invention du restaurant. Alors, pourquoi est-ce que c'est un économiste qui invente ça? C'est pour faire circuler, en fait. C'est cette idée que la modernité, le libéralisme économique, hein, c'est ce qui permet de, voilà, c'est ce qui va fluidifier la société qui est totalement figée dans des corporations, dans des règlements, dans des privilèges. Il faut savoir que, par exemple, les rôtisseurs et les traiteurs, qui sont aussi très importants à Paris, et beaucoup de gens mangent comme cela, ils ont droit de servir, de rôtir un poulet ou un rôti.
Ils n'ont pas le droit de le découper en tranches.
Ils n'ont pas le droit de le découper en tranches, de l'individualiser. Ils n'ont pas le droit d'avoir une table près de leur cuisine. Donc voilà, il y a toute une série de règlements, de privilèges qui sont liés aux corporations différentes de la cuisine, qui fait que Rose de Chantoiseau, en fait, fait circuler un air nouveau, un air un peu frais comme ça dans ces réglementations extrêmement rigides de l'ancien régime.
Et c'est un succès énorme.
Alors oui, ça lance une mode. Alors on en a des témoignages grâce à certains écrivains, Diderot, Rétif de la Bretonne, qui se précipitent dans ce lieu et qui racontent. Alors tous racontent le plaisir d'être seul à table.
Comme vous.
Et voilà. Et ce plaisir d'être seul à table, c'est à la fois un plaisir d'être seul, de commander ce que l'on veut, de manger à son rythme. C'est aussi le plaisir de discuter avec des voisins de table ou avec, encore mieux, la personne féminine, généralement, qui vient vous servir et qui fait la conversation. Et donc, voilà, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre du salon, mais avec cette idée d'une table individuelle.
Alors, cette fin de XVIIIe siècle, le restaurant devient donc un succès sur fond de bataille judiciaire. Dans les années 1770, les nouveaux restaurateurs s'opposent aux traiteurs et rôtisseurs, et on voit apparaître dans les tribunaux des questions de la plus haute importance. Je pense au grand débat autour de la sauce poulette. Racontez-nous.
Oui, alors le débat, les rôtisseurs, quand ils voient apparaître cette vogue du restaurant, ils comprennent que leur métier est en danger. Donc ils font tout de suite un procès, hein, au Parlement de Paris, plus haute instance judiciaire de l'époque. Et le procès va porter sur le caractère de la sauce poulette, effectivement. Est-ce que Monsieur Rose de Chantoiseau et son cuisinier ont droit de servir cette sauce poulette qui fait le succès de leur nouveau restaurant? Est-ce que c'est un nappage ou est-ce que c'est une sauce comme un ragoût, en fait? Voilà. Et si c'est un ragoût, ils n'ont pas le droit de le servir parce que le ragoût est réservé aux rôtisseurs. Si c'est un nappage, ils peuvent le faire. Et donc le Parlement tranche en disant que c'est un nappage. Et donc la sauce poulette est un succès énorme. Et même Louis XV, hein, qui est le roi de l'époque, en 1765, va se faire servir une sauce poulette pour goûter ce plat à la mode qui est lancé par le premier restaurant.
Est-ce qu'à la fin du XVIIIe siècle, on retrouve toutes les caractéristiques du restaurant tel que nous le connaissons aujourd'hui?
Disons que le restaurant précipite un petit peu ses caractéristiques. Alors, il y a la table individuelle, hein, c'est quelque chose de très important. Le menu, ça c'est quelque chose qui s'invente aussi avec le restaurant, en tout cas qui se développe énormément. Et puis ce sont les habitudes de la table, tout simplement. L'heure à laquelle on vient manger, à la fin du 18e, invente littéralement ce moment qui est celui du déjeuner, hein, ça s'appelle le déjeuner à la fourchette, vers midi, avec souvent un repas froid. Il installe vraiment le dîner et le souper, donc dîner vers 7h et souper après le spectacle vers 10h. Donc il y a trois occasions d'aller au restaurant, c'est très important, hein. C'est quelque chose de voilà, on peut aller au restaurant parce que il y a l'occasion de le faire. Et puis c'est le passage du service aussi, c'est le service qui se met en place. En gros, c'est le passage du service très aristocratique qui était le service à la française, où on amène tout sur la table pour impressionner ces invités. On amène de l'entrée jusqu'au dessert, tout est là comme une sorte de démonstration de son luxe,
de son savoir-faire.
Et au passage à ce qu'on appelle le service à la russe.
C'est quoi ça exactement?
Alors le service à la russe, c'est les choses qui arrivent successivement au fur et à mesure du repas. À l'époque, il pouvait y avoir 4 ou 5 plats successifs, hein, et donc de l'entrée, l'entremets, le plat principal jusqu'au dessert. Il y avait comme ça, les plats arrivaient successivement, ce qui permettait de... Le problème du service à la française, c'était qu'on mangeait froid, souvent des choses qui devaient être chaudes.
Ça, c'est votre obsession, Grégory Cohen, que vos convives ne mangent pas froid.
Là, c'est le cauchemar absolu du cuisinier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que tout arrive chaud, pas trop chaud, pas trop tiède non plus, à bonne température.
Ça, c'est le service à la russe qu'il a généralisé, ouais.
Un message par courriel, une auditrice qui nous dit « Je suis surprise que vous ayez choisi précisément ce thème le jour de la collecte pour les Restos du Cœur et de la diffusion du concert des Enfoirés ce soir. Sérieusement, aujourd'hui, ben non, l'un n'empêche pas l'autre, chère auditrice. On peut parler du restaurant de façon très détendue et donner aux Restos du Cœur sans aucun problème. Guillemette Audicino.
Ah ben justement, ma question correspond, pas vraiment, mais... est-ce que au début le restaurant c'était cher?
Alors oui, le restaurant. Alors le tout premier restaurant, celui dont on a parlé de Rose de Chantoiseau, était un lieu à la mode où il n'y avait pas encore beaucoup de plats, il n'y avait pas un grand cuisinier, donc c'était relativement économique, même si on payait justement la nouveauté, la mode. Après les premiers restaurants comme ceux de Beauvilliers,
la grande taverne de Londres.
Voilà, la grande taverne de Londres, de Beauvilliers, de Méo, des trois frères provençaux. Là, on est dans des habitudes aristocratiques qui se démocratisent, mais il s'opère ce que moi j'appelle une sorte de suffrage censitaire de l'estomac. C'est-à-dire que pour aller dans ces endroits qui sont souvent des endroits très luxueux, dans des hôtels particuliers près du Palais Royal, il faut, et puis où on paye un grand chef qui vous propose plusieurs dizaines, voire centaines de plats, et où on mange de façon, voilà, les repas de ce moment-là sont des repas véritablement trop d'ailleurs.
Pantagruel,
oui. Et donc un des d'ailleurs une des grandes réformes du premier grand chef, en tout cas considéré comme le premier artiste de la cuisine, qui est Antonin Carême, ça va être de simplifier la carte et de
Antonin Carême.
Oui.
Non mais
absolument.
Ça tombe bien. Ouais, non mais c'est extraordinaire ça.
Jusqu'à présent ils ont tous des noms magnifiques.
Éric Libio.
Oui, question essentielle pour revenir à ce que disait Grégory Cohen tout à l'heure. C'est quoi un plat trop tiède? Parce que je vois ce que c'est qu'un plat trop chaud, mais trop tiède.
Alors en fait, c'est vraiment tout. Alors c'est la problématique d'un restaurant, c'est qu'on doit être on doit satisfaire le client. Et donc on a parfois des demandes un peu incongrues, on peut avoir un plat qui va arriver et la personne va le trouver trop chaud. Alors pour vous, trop chaud, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Trop tiède, ça veut dire que en fait, ils vont nous dire je voudrais une viande bleue par exemple. Donc la viande bleue, elle est juste cuite aller-retour, elle est crue à cœur, elle peut pas être chaude, elle peut pas être brûlante par définition. Donc elle va arriver et on peut nous la renvoyer en disant je la trouve trop tiède.
Merci. Je crois que c'était une question idiote, mais en fait, c'était pas une question idiote du tout. Merci beaucoup.
À partir de quand, Antoine Debecq, les restaurants deviennent-ils populaires?
Alors, donc le premier restaurant est vraiment un restaurant d'élite, d'élite bourgeoise. Hein, et alors, la popularisation des restaurants accompagne aussi sa migration. Donc, les premiers restaurants apparaissent dans ce quartier qui est le Palais Royal, hein, qui est un quartier très aristocratique, et mais en même temps très, voilà, très
près du Louvre. Hein,
ouais, près du Louvre. C'est aussi le quartier à la mode où on peut tout ce qui est interdit est là, quoi. Et donc, ça attire beaucoup de monde, mais quand même, c'est encore une habitude très aristocratique. Et puis, peu à peu, dans les années 1830, le restaurant va migrer vers le boulevard.
Les grands boulevards.
Les grands boulevards. Et donc là, on est dans un espace qui est beaucoup plus mélangé, hein, beaucoup plus populaire.
Avec l'apparition notamment des grandes brasseries de tradition alsacienne.
Voilà. Alors apparaissent deux choses qui vont populariser, on peut dire, le restaurant. C'est d'abord les bouillons. Alors ça, c'est très intéressant. Ah, oui. Les bouillons, c'est les ancêtres de Chartier, ou il reste le bouillon Racine, bon, qui est devenu un restaurant à peu près un peu normal. Mais les premiers bouillons, ce sont c'est en quelque sorte la sérialité de ce qu'on mange qui fait baisser les prix. C'est-à-dire c'est Monsieur Duval, qui est un boucher en fait, qui ouvre le premier bouillon dans les années 1840 en servant de la viande qu'il a à profusion, et vont s'ouvrir sur ce même modèle 8 restaurant où on sert la même chose avec selon la même façon de manger, et là les prix vont évidemment être beaucoup moins forts parce que on mange des choses qui sont assez simples finalement.
Et donc la chaîne en plus, c'est fou,
voilà
ça.
C'est la chaîne c'est la chaîne la chaîne restauratrice qui est inventée, et c'est effectivement les grandes brasseries ensuite alors vont être des lieux qui sont très mêlés, hein, où on trouve aussi bien le tout Paris que des gens plus populaires.
À titre personnel, j'ai un grand faible pour les grandes brasseries de tradition alsacienne.
Voilà,
notamment donc, le dimanche soir, aller dîner dans une brasserie Terminus Nord, à la gare du Nord. Zazie Tavitan.
Et ce qui est drôle, c'est que les bouillons reviennent vraiment à la mode ces derniers temps. Il y a le bouillon Pigalle qui a ouvert
succès
récemment.
Succès énorme. À
un
Paris.
Succès énorme. Et moi, j'y ai été et je me disais, tiens, c'est étonnant, je mange pour une fois avec des gens qui ne me ressemblent pas. Mmh. Parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus mêlé. Il y avait des familles, des personnes âgées, des gens plus jeunes, et ça revient. Il y a vraiment cette envie de pouvoir remanger des plats très typiquement français à des prix correct.
Et Grégory Cohen.
Oui, en fait, les restaurants, il y en a vraiment à tous les prix et en fonction de ce qu'on va rechercher. Le bouillon, en l'occurrence, le bouillon Pigalle, ils vont remettre l'œuf mayonnaise, ils vont
les harengs pomme à l'huile.
Voilà, en fait, des plats qui sont très simples, qui sont très peu coûteux, qui sont complètement accessibles, qui sont hyper démocratisés. Donc ça, c'est une chose. On peut y aller pour ça. Après, on a plein d'autres restaurants qui peuvent monter jusqu'au restaurant expérientiel où on va arriver quelque part avec des cuisines qui ont évolué, parce que la France évolue énormément en termes de cuisine, par la moléculaire, par la cuisine
nouvelle.
C'est un peu
fini ça, la cuisine moléculaire, non ?
Alors en fait, ça a été intégré. C'est pas que c'est fini. On est un pays qui intègre les tendances, qui intègre à peu près tout. On s'est retrouvé avec des influences italiennes, on a fait de l'ossobuco. On s'est retrouvé avec des influences de l'Est, on a fait de la choucroute. On s'est retrouvé après avec des influences de produits. Maintenant, tout est très proche. Donc On a vraiment un pays d'influence et on assimile.
Un mot quand même, Antoine Debecq, sur un grand chef français, Escoffier, né en 1846 et mort à Monte-Carlo en 1935. Quel est le grand apport d'Escoffier ? C'est grâce à lui qu'on est allé vers davantage de simplicité ?
C'est l'efficacité.
Et d'efficacité, surtout.
Voilà, Escoffier, c'est l'inventeur de la brigade. C'est-à-dire que voilà, il réforme complètement l'organisation de la cuisine sur un mode militaire. Escoffier est un homme du Sud, de Nice. Il a fait ses classes dans un petit restaurant niçois et ensuite il est en fait le cantinier, on va dire, de l'armée française en 1870. Alors l'armée française perd, mais elle mange bien en 70. Et grâce
c'est
à Escoffier, c'est peut-être
il y a peut-être un certain
lien d'ailleurs. Mais en tout cas,
ça a eu quel impact sur l'expérience d'aller au restaurant?
Ça a un impact d'abord sur l'organisation et l'efficacité de la cuisine, c'est-à-dire que Escoffier réussit à servir plusieurs centaines de plats à une vitesse. En gros, il parvient grâce à la brigade à diviser par 3 le temps de confection d'un plat. Voilà, c'est quelque chose avec une spécialisation comme ça qui fait que l'organisation militaire de la brigade est véritablement efficace. Donc Escoffier peut mettre au point, ça c'est son deuxième apport, grâce à sa rencontre avec Edgar Ritz, il met au point la cuisine de palace, c'est très important, c'est-à-dire que dans ces lieux de luxe et énormes comme ça vont pouvoir coexister et manger ensemble plusieurs centaines de personnes pouvant déguster de la grande cuisine grâce à Escoffier. Donc il y a voilà, c'est la brigade d'un côté, le palace de l'autre, c'est vraiment la révolution d'Escoffier.
Pour moi, c'est un plaisir. On a nos petites adresses personnelles qu'on aime bien et puis on aime aussi en découvrir d'autres.
J'aime bien découvrir des nouvelles cuisines.
Des restaurants vietnamiens. J'y vais parce que je reçois beaucoup d'amis vietnamiens et ils aiment bien la nourriture française, mais ils préfèrent la vietnamienne.
Je vais au restaurant pour profiter d'être avec mes amis et pour des grandes occasions en famille, pour des anniversaires de mariage ou autre.
Souvent après le boulot, ou moi après je suis en congé maternité, t'as la flemme, tu veux te retrouver avec ton mari, avec ton enfant, vous sortez. Il n'y a pas de raison particulière pour moi pour aller au resto.
Parfois en semaine pour déjeuner, parce qu'on n'a pas de cantine d'entreprise. Ou sinon le soir, en famille, avec des amis, c'est plus, un peu plus festif, quoi.
On a des habitudes, oui, mais on est... On est ouvert à toutes les tentations qui arrivent.
J'aime bien la bonne nourriture et découvrir des choses, quoi.
Il n'y a absolument pas de palais. Moi, je cherche le volume. Un bon gros routier, vous voyez, comme autrefois, ça m'allait tout à fait bien.
Je vais manger au restaurant parce que j'aime pas faire la cuisine.
Éric Ibul est un peu comme vous, hein. Vous aimez le volume aussi, hein. Vous aimez quand les assiettes sont bien remplies. Propos recueillis par Nicolas Boff dans les rues de Paris. Marielle nous dit, j'adore aller au restaurant, j'ai 72 ans et je cuisine presque 365 jours par an. Donc lorsqu'on veut me faire très plaisir, on m'invite au restaurant, pas besoin d'un 3 étoiles, le plus simple m'enchante. Le seul fait de m'installer à une table et d'attendre d'être servi, c'est déjà la moitié du plaisir. Mon mari, lui, déteste le restaurant, il prétend qu'il mange mieux à la maison, qu'on n'attend pas, que c'est meilleur. Bref, s'il veut être gentil, ce qui lui arrive de temps en temps, il m'invite au restaurant. Zazie Tavitin, tiens, revenons peut-être aux années 2000 et 2010 dans la pratique du restaurant. Il y a une chose qui change radicalement, c'est que tout le monde est devenu critique gastronomique en jugeant, évaluant les restaurants, les plats à travers des applis comme TripAdvisor ou La Fourchette.
Ça, j'imagine que ça doit être un peu compliqué, surtout pour les chefs. Après, quand on va au restaurant, voilà, on a quand même envie de passer un bon moment, donc on prépare aussi à tout moment où on va préparer, réfléchir à ce qu'on veut manger, quelle ambiance on veut avoir, etc. Et moi-même, quand je veux au restaurant, ça m'arrive de lire les avis, parce qu'on y va quand même, et puis on lâche prise, et donc on remet vraiment son estomac entre les mains du chef. C'est-à-dire que on lui donne quand même cette responsabilité-là, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait envie de se renseigner avant pour être sûr de passer un bon moment.
Grégory Cohen, cette évaluation permanente des clients, ça change quoi dans votre quotidien ?
En fait, les restaurants ont toujours été évalués.
Oui, mais pas à ce point-là.
Vraiment. Là, c'est un petit peu différent. En fait, c'est un peu biaisé parfois parce que très souvent, c'est les personnes mécontentes qui vont faire l'effort d'aller expliquer pourquoi elles sont mécontentes.
Ça change votre rapport aux clients, honnêtement ?
ça change pas notre rapport. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de faire en sorte que ça ne change absolument pas mon rapport au client. C'est-à-dire, je vois pas chaque client comme potentiellement une menace qui pourrait aller sur un TripAdvisor, etc. Et puis, c'est le jeu. Il faut savoir aussi, d'un autre côté, que moi, je vais leur servir à manger dans un cadre qui va être super agréable, avec un service autour, mais contre rémunération. Donc c'est un jeu, c'est normal d'accepter à un moment la critique et c'est normal d'être à l'écoute du client qui va dire bah j'ai pas bon, ça m'est jamais arrivé hein, jusqu'à présent. Ali.
Alors il y a une chose qui m'agace un petit peu tout de même, c'est cette passion, cette obsession de prendre ses plats en photo et de les poster sur les réseaux sociaux type Instagram. Guillemette Odissino. Ah, vous la comprenez
cette... Ah non, j'allais juste dire, c'est insupportable. non, c'est vrai que je reconnais que c'est il y a quelque chose. En plus, il y a quelque chose. C'est comme quand vous allez voir un spectacle et qu'au lieu de le regarder, vous le filmez pendant tout le spectacle. Que vous allez voir vos enfants à la kermesse et au lieu de les regarder danser ou chanter, vous êtes derrière l'œilleton de votre caméscope. Ben moi, je trouve que c'est exactement la même chose de mettre en spectacle quelque chose qui en fait se vit sur le moment, quoi.
Zazie Tavitan.
Alors moi, je pense aussi que Instagram, donc qui est un média où on poste beaucoup ces photos de plats, c'est un fabuleux média pour savoir, pour donner envie aussi, pour se dire tiens, ce plat a l'air super, je vais aller le goûter, etc. Et je pense que ça existe depuis toujours, de vouloir montrer où on va manger, ça définit qui on est, enfin peut-être Antoine Debecq pourra
oui,
en
y a,
parler.
Oui, il y a une imagerie du restaurant, mais qui généralement a été plus sur... comment on mange et les lieux que sur le plat lui-même qui est rarement figuré dans les gravures ou les images
Grégory Cohen
anciennes.
Moi ça me gêne absolument pas du tout, on est dans une culture aujourd'hui du partage de la communauté et donc vraiment ça me gêne pas. Ça devient un petit peu dommage quand je vois un couple qui est l'un en face de l'autre et qui sont chacun fixés sur leur portable et qu'ils échangent pas un mot, mais voilà.
Allez, continuez à nous raconter votre plus belle expérience de restaurant sur notre page Facebook. Merci à tous, merci Antoine Debecq, La France Gastronome est publiée chez Payot. Merci Grégory Cohen, merci chef au 99 Haussmann. Merci Zazie Tavitan, je signale votre podcast Casserole.
J'ai des choses que je pensais pas. Accélérant ma mise à mort. La vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort. Téléphone-moi encore. Je promets que je ne répondrai pas. Tu changes et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça. Transformation.
Flavien Berger interprétait Castelmore.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et c'est l'heure de l'éternel retour d'Éric Ribiot de l'Express.
Eh oui, aujourd'hui, Ali, 8 mars, c'est l'éternel retour de la journée internationale des droits de la flemme, dont on sait qu'ils ne sont pas forcément respectés partout dans le monde. Il est en effet des pays où la flemme n'a pas le droit de citer, ni même le droit d'exister. On lui demande de se cacher, alors qu'elle n'est pas moins essentielle que le travail. Eh bien moi, je rêve d'un monde où la parité entre le travail et la flemme serait enfin respectée partout. Je rêve d'un monde où la flemme pourrait s'afficher au grand jour. Je rêve d'un monde où la flemme pourrait s'exprimer sans avoir peur de se faire moquer, voire insulter, par les adeptes du travail et de l'effort. Je rêve d'un monde, justement, où l'effort feront de la place aux faibles, parce que oui, il y a encore certains qui considèrent qu'applaudir la flemme est une preuve de faiblesse. Je lance donc la déclaration des droits de la flemme. Article 1, les hommes et les femmes naissent et demeurent libres, flemmards et égaux en droit. Article 2, nul ne doit être inquiété pour sa flemmardise, pourvu que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 3, il existe un droit inaliénable à la procrastination. Bien entendu, il faut que cette déclaration de la flemme paraisse. Et je voudrais ici saluer le livre de Paul Lafargue, « Droit à la paresse », publié en 1880, dans lequel on peut lire « Ô paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines ». Alors vous me direz, Ali, que célébrer la flemme un seul jour par an, ce n'est pas assez, et je suis bien d'accord avec vous. C'est même un chouïa hypocrite, comme une concession faite à ceux qui défendent la flemme, et puis basta, le reste du temps, il n'est plus question que de boulot. Alors que pour que la flemme soit entièrement respectée, il faut en parler le 8 avril, le 12 juillet, le 22 septembre, le 16 novembre et tous les autres jours de l'année. Parce que j'entends déjà ceux qui ne veulent pas se consacrer la flemme monter sur leurs grands chevaux pour se remettre en selle et objecter que cette année, le 8 mars, tombant un vendredi, veille du week-end, les défenseurs de la flemme vont pouvoir jouir enfin de ces 3 jours où il ne sera question ni de ménage ni de vaisselle, mais de canapé et de contemplation. Et pendant ces 3 jours, le condor, c'est spécial pour guillemets, parce qu'il n'a toujours pas compris que la flemme doit être respectée comme un principe actif de la société, non la flemme n'est pas soluble dans le sommeil. La flemme, ce n'est pas rien. La flemme, c'est arrêter de faire la course, même quand il y en a plusieurs. La flemme, c'est arrêter de faire le ménage entre ce qui est fait et ce qui doit être fait. La flemme, c'est arrêter de repasser sans cesse le métier sur l'ouvrage. Ah, mais pardon, je vois David, le réalisateur, qui me fait de grands signes. Apparemment, je me serais trompé. Ah oui. Le 8 mars n'est pas la journée de la flemme, mais la journée de la femme.
Journée internationale des droits des femmes.
Eh bien, tant pis, je persiste et je signe, partant du principe qu'entre la flamme et la femme, il n'y a qu'un « elle » de différence et que tout le monde sait qu'on ne peut rien faire sans « elle ». Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au mensuel Cosette, qui fête ses 10 ans. Cosette qui défend le féminisme, un féminisme actif et souriant, sans flemme, mais avec beaucoup de flamme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme et revient toujours.
Effectivement, bon anniversaire mensuel Cosette. Zazita Vitan, un mot sur votre podcast Casserole qui est consacré aux femmes.
Oui, mon dernier épisode, le sujet c'est où sont les femmes chefs, et donc j'ai invité 2 autrices, Vérane Frediani et Esther Elpayani, qui ont fait un guide avec 500 femmes chefs, donc 500 restaurants où on peut aller manger, tenus par des femmes chefs, et c'est important de le dire, il y en a beaucoup en fait, c'est juste qu'elles sont un peu moins visibles que leurs confrères.
Merci beaucoup Zazita Vitan. Merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Merci aux techniciens ce matin, Maxime Ingrand et Rémi Sistiaga. Après la France qui mange, on s'intéresse lundi à la France qui boit. L'alcool omniprésent dans notre pays. Pourquoi et comment consomme-t-on autant d'alcool en France? Rappelons que l'alcool tue chaque année 41 000 personnes selon Santé publique France. Nous recevrons Thomas Pitrel et Victor Legrand qui publient Tournée Générale et la dictologue Amine Benyamina. Que vous soyez buveur d'alcool ou pas du tout, n'hésitez pas à nous raconter votre rapport à l'alcool au 01 45 24 7000.